Néo-Québec, dimanche de 13h à 15h. C'est rafraîchissant.
La députée de Bourassa Sauvé, qui était co-porte-parole du comité de relance du Parti libéral du Québec, c'est Madouanika Cadet. Bonjour Madouanika Cadet.
Bonjour Cyril, salutations à tout le monde.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Je sais que c'était, c'est vraiment limite, mais bon, c'est pas grave, on va quand même bien faire les choses. Content que tu sois avec nous aujourd'hui pour parler de ce rapport.
Oui.
La dernière fois que tu es passé nous voir, justement, le comité de relance que tu co-présidais,
oui,
du Parti libéral du Québec était déjà en jeu et tout.
Oui, donc, il avait commencé ses travaux.
Il avait commencé. Et puis, là, vous avez rendu, comme on dit, vous avez rendu votre copie la semaine dernière.
Oui.
Voilà. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de choses à dire. Puis on est content que, comme tu nous l'avais promis, tu viennes nous en parler. Avant, j'ai quelques questions un peu d'actualité là avec toi rapidement.
Oui.
C'est de toute façon, ça fait partie aussi de ce rapport, parce que au-delà du rapport, tu as fait l'actualité aussi pour avoir interpellé le premier ministre, évidemment ta qualité de député de Bourassa-Sauvé, mais surtout porte-parole du dossier langue française au sein du Parti libéral, donc de l'opposition officielle. Tu as interpellé le premier ministre en lui demandant de se rétracter sur certains propos ou de t'apporter d'apporter à la population des preuves par rapport à un propos qu'il avait tenu.
Exactement.
Sur l'anglais et le français. Est-ce que tu nous en dis
Oui, bien sûr. Donc, cette semaine, on a vu que la semaine dernière, mm-hmm, la CAQ a annoncé la hausse donc des frais scolaires, de doubler les frais de scolarité des étudiants canadiens hors, mm-hmm, Québec qui viendraient étudier ici dans les institutions anglophones. Mm-hmm. Cette mesure a deux portées. Donc, on nous l'a présentée, en fait, on nous a présenté qu'elle aurait deux portées, soit celle de refinancer nos établissements francophones, mais également celle d'endiguer le déclin du français. Donc, le premier ministre, s'est exclamé, a lancé en début de semaine que ces étudiants-là venaient, mettaient en péril la survie du français. Mm-hmm. Rien de moins. Donc, moi, en tant que porte-parole pour la langue française, vous savez, donc nous, au Parti libéral du Québec, donc on a mis de l'avant différentes propositions en matière de protection de la langue. J'ai rencontré le ministre Roberge plus tôt ce printemps pour lui faire part de nos propositions actualisées en matière de protection de la langue française en amont de leur groupe d'action sur la langue que le gouvernement a mis sur pied. Et à mon sens, cette déclaration-là ne vient pas du tout aider à protéger la langue, ne vient pas favoriser la pérennisation du français et, au contraire, vient braquer bien des gens. Et l'autre chose que j'ai apportée, c'est qu'en fait, cette mesure-là ne semble pas faire quoi que ce soit donc, en matière de préservation du français. Donc, on vient dire, le premier ministre et la CAQ nous disent qu'il y a trop d'étudiants anglophones à Montréal. Donc, essentiellement, il faudrait faire en sorte qu'ils ne soient plus présents dans notre centre-ville. Et finalement, la problématique serait réglée, ce qui n'est absolument pas le cas. Et d'autant plus que d'une part, on nous présente que c'est une mesure pour protéger le français, et d'autre part, la ministre Derry, chaque fois qu'on lui pose la question, elle nous dit non, si, puisqu'on double les frais de scolarité, donc ces étudiants-là ne seront pas présents, mais au contraire, on nous dit que c'est injuste de subventionner les études des étudiants canadiens hors Québec parce qu'ils quittent.
C'est pour ça que tu as parlé d'incohérence.
Donc, on ne peut pas nous dire d'un côté que ces étudiants-là quittent en grand nombre le Québec, donc que ce n'est pas un investissement rentable parce qu'ils ne sont plus là, et de l'autre nous dire, mais puisqu'ils sont là, ils anglicisent le centre-ville de Montréal et le Québec en entier. Donc, c'est cette incohérence-là que j'ai surtout voulu soulever dans la question que j'ai posée en chambre au Salon Bleu au gouvernement, puis dans la motion que j'ai déposée par la suite, afin que le premier ministre se rétracte sur cette question-là, parce que ce n'est pas la première fois qu'il émet des propos incendiaires en matière de protection de la langue qui n'aident pas le débat, qui n'élèvent pas le débat.
Maintenant que tu parlais, j'informe juste comme ça qu'on a le plus jeune invité Depuis que je fais de la radio, on a le plus jeune invité dans le studio avec nous. C'est pour ça que vous pouvez entendre de temps en temps question de nous dire qu'il est là. Il tousse un peu, mais bon, voilà, il est avec nous. Je voudrais revenir un peu sur ce rapport-là, Madonica Kadé. Oui. Vous avez rendu le rapport. Voilà, il y a plusieurs pistes de réflexion, qui, notamment liées à l'affirmation du Québec au sein du Canada et dans le monde, l'adoption de politiques rassembleuses et inclusives, ainsi que la création de la richesse pour tous les Québécois. Oui. Vous parlez de l'adoption d'une constitution québécoise. Procéder à une réforme, on en parlait en profondeur de l'enseignement du français, d'assurer une véritable autonomie aux régions afin qu'elles puissent mieux gérer leur développement économique et social, de déployer une politique industrielle et d'instaurer un revenu minimum d'activité. Avec ta permission, il y a certains pans de ce rapport que je vais plus ou moins mettre de côté. Je vais surtout m'intéresser un peu à ce qui concerne vraiment notre cible. La constitution québécoise, c'est quoi?
Mais c'est une idée qui flotte quand même depuis...
Libéral, ouais, c'est quoi?
Oui, voilà, donc depuis longtemps, donc même chez nous, donc à l'époque, c'était Benoît Pelletier qui la mettait de l'avant, donc il y a à peu près 20 ans, dans nos rangs comme constitutionnaliste. Donc, c'est tout simplement donc, d'émettre donc, un document fondateur, donc qui viendrait, d'une part, donc inscrire donc, dans un seul document certains des autres, donc des autres lois, des autres documents législatifs qui ont donc une portée fondatrice, on pense un peu donc à la Charte des droits et libertés du Québec, qui est en vigueur donc, depuis les années 70 en raison donc, d'un gouvernement libéral. On pense à la Charte de la langue française. Donc, on pense à ces documents-là qui pourraient se retrouver à l'intérieur d'une constitution et qui viendraient s'élargir un peu en mettant de l'avant donc, nos, ce qui nous distingue donc, ici au Québec. Faut
avec une valeur politique ou juridique?
Ben les deux en fait donc ce serait donc un document comme n'importe quel document constitutionnel donc oui avec une valeur juridique sur lesquelles donc les tribunaux donc pourraient s'appuyer comme c'est le cas en ce moment comme c'est le cas donc avec nos différents documents législatifs donc par exemple on peut penser donc à ce qui a fait défrayer les manchettes beaucoup donc la question de la clause nonobstant donc l'emploi de la clause dérogatoire donc on parle souvent de la clause nonobstant qui se trouve dans la charte canadienne mais il y en a une dans la charte québécoise aussi, et les tribunaux donc, s'appuient sur ces deux clauses nonobstant lorsqu'elles émettent des décisions. Donc, oui, donc, il y aurait une portée juridique à un tel document qui serait mis de l'avant par l'ensemble de la société civile, mais avec une couleur libérale, donc avec une saveur libérale. Donc, nous, ce qu'on a indiqué, c'est que dans un tel document constitutif, que la Constitution canadienne donc, permet, en passant, donc notre document fondateur fédéral donc, permet à chacune des provinces et à chacun des territoires d'avoir donc, leur constitution à titre d'État fédéré. Donc, ce document-là donc, viendrait aussi inscrire que, par exemple, donc, les anglophones donc, ont le droit donc, d'obtenir donc, des services en anglais et de contrôler leurs propres institutions. Également que notre modèle d'affirmation, notre modèle d'inclusion, donc, est l'interculturalisme, et donc que chacune des communautés donc, issues de la diversité donc, ont aussi ce droit-là de pouvoir s'affirmer, mais également donc, font pleinement partie de la société québécoise, donc, parce qu'on n'a aucun document fondateur. En fait, on n'a aucun document qui l'indique pleinement quel est notre modèle de société, quel est notre modèle d'inclusion. Donc, ce sont les différents éléments qui devraient se retrouver, selon nous, c'est dans une constitution québécoise à titre d'État fédéré du Canada.
Alors, dans ce rapport-là, il y a vraiment, comme je dis, plusieurs... vous avez fait un constat général de ce qu'attendent les libéraux et ses sympathisants à travers le Québec. Vous avez fait un certain nombre de recommandations. Les meilleurs ou les plus grands, les plus nombreux des analystes, ce qu'ils ont ressorti, c'est ce fameux terme, le nationalisme. Parce qu'il y a aujourd'hui collé comme étiquette au Parti libéral, on vous a mis beaucoup ça à la face, une déconnexion avec la majorité de la population qui est évidemment les francophones, comme on dit, il y a une déconnexion. Puis il y a ce concept de nationalisme. Et j'attendais impatiemment qu'on se rencontre pour poser la question. Madonica Kadé, c'est quoi le nationalisme libéral?
Ben d'abord, c'est un nationalisme qui est inclusif et qui est vraiment pour l'ensemble des Québécois. Puis c'est intéressant, Cyril, parce que dans ton introduction, tu dis, bon, le nationalisme, donc, serait en réponse à une, donc, prétendue déconnexion avec la majorité francophone. je m'inscris en faux, pas nécessairement face à ce diagnostic-là, parce qu'il est réel, mais à la conclusion que de mettre de l'avant que nous, libéraux, nous nous inscrivons aussi donc, dans cette lignée-là, donc d'être des nationalistes québécois, vise à répondre à ce que à cette déconnexion ou à cette difficulté là, qu'on a donc à obtenir donc des sièges ou à faire des gains donc dans les différentes régions du Québec. Au contraire, nous, ce qu'on a voulu faire donc à travers ce document-là, dont le mandat était donc de définir ce que ça signifie être libéral en 2023. Donc, c'était vraiment donc, de poser donc les assises de quelle est cette identité libérale, comment les libéraux se reconnaissent. Puis, quand on faisait notre tournée dans les différentes régions, ce qu'on entendait, les gens nous disaient bon, on est fédéraliste, on est nationaliste, mais nous, notre nationalisme, il n'est pas donc on est nationaliste dans le sens où on est très conscient de l'histoire du Québec, on est très conscient de notre identité québécoise qui est différente de l'identité canadienne de façon générale, qui est complémentaire. Mais pour nous, l'immigration, elle n'est pas une menace. Pour nous, comme libéraux, donc l'immigration, c'est en fait une richesse et on veut vraiment véhiculer ce message-là.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'utilisent comme une menace, qui voient l'immigration comme une menace?
Ben écoutez, je vais pas je vais vraiment réitérer exactement donc les propos. Je répète exactement les propos des militants, même à l'extérieur donc de la région de Montréal, qui nous faisaient donc qui nous transmettaient ce message-là. Mm-hmm. Donc probablement, donc ils faisaient référence à d'autres partis politiques et on peut penser donc à une vision peut-être plus de repli de la CAQ et du Parti québécois en ce moment.
J'ai reçu Rouba Ghazal,
oui,
la semaine dernière, qui est dans sa campagne pour le, oui, co-porte-parole-là et qui me parlait de nationalisme. Mm-hmm. Et donc, Québec solidaire, c'est elle prône un nationalisme moderne, progressiste, mm-hmm, et il y a un troisième terme. Vous parlez de nationalisme audacieux, inclusif et rassembleur. Mm-hmm. La CAQ s'est assis sur le nationalisme qui
sans
a viré
définir
un peu en nationalisme, j'ai presque envie de dire identitaire.
Mais écoutez, donc, c'est
ça fait que nous, on se retrouve pas là-dedans, hein. c'est ça.
C'est que c'est excessivement important, c'est de le mentionner. Puis ça, on a tenu à vouloir faire un état des faits, à tenir un état des lieux dans le rapport et mentionner qu'en fait, donc, dans l'histoire du Québec, donc, il y a toujours eu plusieurs courants nationalistes. Donc, c'est-à-dire, donc, il y a plusieurs partis politiques ou même, donc, dans la société civile en général. Donc, des gens qui ont voulu mettre de l'avant les intérêts du Québec dans la Fédération canadienne. Et ils l'ont fait de façon différente. Donc, à l'époque, donc, on parlait parfois, donc, d'un nationalisme ultramontain, un nationalisme plus conservateur, donc, d'autres plus d'ouverture. Donc, il y a toujours eu ces courants-là au cours du 20e siècle au Québec pour parler de la défense des intérêts du Québec. À partir des années 60, à partir de la Révolution tranquille, ce qu'on a vu, c'est l'émergence d'un nationalisme civique, un nationalisme d'État, ce qui n'était pas le cas avant. Donc avant, donc au Québec, on ne parlait pas d'État en tant que tel, comme État francophone. Donc on parlait vraiment donc des Canadiens français qui faisaient donc qui composaient la majorité de la population, donc ici donc dans la province du Québec, et qui donc souhaitaient donc une certaine émancipation. Cette émancipation, donc elle s'est développée donc à travers donc l'émergence donc d'un État et d'un État où l'identité québécoise devait devenir plurielle, donc devait faire en sorte que oui, donc mettait de l'avant cette identité canadienne-française donc qui l'a fondée, mais qui permettait aussi à tous ceux et celles qui voudraient se définir québécois d'être inclus dans cette définition-là de ce que ça signifie donc aujourd'hui de l'être, donc de s'affirmer québécois. Malheureusement, et cet état des lieux, on le fait dans le rapport, dans les 10-12 dernières années, donc je dirais même donc à partir donc de 2007, là, donc dans les 15 dernières années, ce qu'on a vu, c'est un certain retour d'autres types de nationalisme, peut-être plus de repli, plus conservateur, plus figé vers le passé, tourné vers le passé, donc un type de nationalisme qui a fait en sorte que certaines personnes ne se reconnaissaient pas dans la nécessité de défendre les intérêts du Québec.
Un nous et les autres.
Distincts. Ben voilà, mm-hmm, voilà. Donc il y a eu une émergence d'un nous et les autres, mm-hmm, qui n'existaient pas, même quand moi je grandissais ici, donc avant le milieu des années 2000. Donc ce qu'on a voulu mais vraiment inscrire dans le rapport, c'est le fait que pour nous, comme Parti libéral du Québec, c'était important donc de définir donc où est-ce qu'on s'inscrit dans ces courants-là. Puis ce qu'on dit, c'est que nous, donc on revendique toujours donc ce type de nationalisme d'ouverture, rassembleur, inclusif, qui a permis l'émergence donc du Québec donc au cours de la Révolution tranquille, ce qu'on a vu dans les années suivantes et qui n'appartenait pas à un parti politique. Puis je pense que c'est important de le mentionner parce que par le passé, peu importe la position constitutionnelle d'un parti, de part et d'autre de la Chambre, les gens pouvaient se réclamer de cette ouverture-là. Donc, elle n'était pas prisonnière donc, d'un parti en tant que tel. Mais en 2007, avec donc, la montée de l'ADQ, ce qu'on a vu, c'est que certains partis politiques donc, ont vu qu'il y avait peut-être, donc, en fait, qu'il y avait un nouveau clivage qui s'installait. Un couloir qui s'ouvrait donc, pour l'émergence donc, d'une autre forme de nationalisme. Et je pense que ça a entaché, le terme est fort, mais je pense qu'on peut se permettre de le dire, ça a entaché donc, le terme qui devrait être, justement, qui devrait être inclusif, rassembleur, qui est donc de favoriser la pérennisation d'un État francophone en Amérique du Nord dont on peut tous être fiers, et un État pluriel, libéral avec un petit L, donc qui met de l'avant donc, ces valeurs donc, d'inclusion et ces valeurs de vivre ensemble dont nous réclamons. Mm-hmm. Donc, étant donné donc, ces nouveaux clivages, c'est important pour nous de nous positionner et de dire, ben, en 2023, alors que la question qu'on nous posait, c'est ça signifie quoi être libéral? Ben, en 2023, ben, ça signifie, oui, défendre les intérêts du Québec, oui, défendre notre spécificité québécoise intérieure du Canada, oui, nous assurer que notre culture puisse rayonner, et notre culture donc, qui est, oui, francophone, mais qui est aussi anglo-québécoise, donc qui inclut également donc, les néo-québécois, qui sont plus néo que ça, là, mm-hmm. À l'intérieur donc, de cette identité-là, qu'elle est en mouvance, qu'elle continue de se déployer, mais qu'elle se déploie différemment que ce qu'on voit dans le reste du Canada. Donc, des Québécois de deuxième, troisième génération ne sont souvent pas comme des Albertains ou des Manitobains de deuxième ou troisième génération, quand bien même ils partagent le même héritage culturel ou folklorique. Et ça, c'était important de le nommer parce que cette identité-là que nous formons et à laquelle nous contribuons comme donc Québécois de deuxième, troisième génération, bien, il faut qu'on soit capable donc, de s'inscrire là-dedans. Puis je pense qu'il y a trop de gens qui ne se reconnaissent pas dans l'identité québécoise parce qu'il y a certains leaders politiques qui ont décidé d'avoir une version plus fermée de ce que ça signifiait être Québécois. Puis c'était pour nous libéraux, c'était important de dire, bien voilà, nous, notre vision donc, d'un Québec qui est assumé, donc un Québec qui est confiant, bien ça n'empêche pas l'affirmation et l'inclusion de tous ceux et celles qui se réclament de cette identité-là. Et nous condamnons ce nationalisme conservateur, ce nationalisme de repli-là, qui ne nous représente pas.
C'est ça que vous avez appelé s'affirmer, rassembler, prospérer. Et le rapport, il est sur toutes les plateformes. On peut le retrouver sur le site du Parti libéral du Québec. J'ai une dernière question en une minute. C'est que à titre personnel,
oui.
Tu viens de faire un exercice que généralement font les aspirants chefs ou les chefs parcourir tout le Québec. Je ne vais pas te demander si tu vas concourir à la chefferie du Parti libéral, mais à titre personnel, Madonica Cadet, qu'est-ce que ça t'a apporté de parcourir le Québec et de rencontrer tout ce monde-là?
Oh, j'ai adoré ça, même si ça fait en sorte que j'ai été un peu loin donc de mon fils qu'on entend tousser.
Bon, je ne voulais pas dire que c'était lui le plus jeune de nos invités,
voilà,
mais effectivement.
Voilà, donc j'ai dit, vu que l'information, donc l'invité mystère, donc le très jeune invité mystère, donc c'est mon garçon de 20 mois. Donc malgré ça, blague à part, ça a été un exercice extrêmement enrichissant pour moi, donc comme nouvelle députée, qui en était à sa première année de mandat, de parcourir le Québec, de comprendre les nuances donc, de chacune des régions. Puis ça a été extrêmement enrichissant comme libéral, donc de rencontrer les membres, les sympathisants, les gens qui s'intéressaient au processus, donc pas nécessairement des gens qui avaient une carte de membre en règle, mais vraiment donc, des gens qui souhaitaient s'inscrire dans ce processus-là. Puis j'ai aimé... En fait, saisir que, en fait, peu importe où ce qu'on se trouve au Québec, on est en mesure de créer cette unité-là. Puis ça m'a confortée dans la rédaction du rapport, dans la co-rédaction du rapport, d'une part, parce que je savais qu'en parlant de cette ouverture, cette idée de rassemblement, en fait, que c'est une idée qui percole partout au Québec, pas juste à Montréal. Donc souvent, dans le gouvernement caquiste actuel, donc, a tendance à faire cette distinction-là, donc, entre Montréal, donc, et les régions particulièrement, alors que ce qu'on voit, puis ce que j'ai été capable de voir à travers ce processus, c'est que partout au Québec, on est en mesure, donc, de faire valoir ce type d'idée-là, ce type de, bon, de nationalisme-là, ce type de vision très inclusive du Québec. Ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée parce qu'il y a un discours dominant qui nous fait croire l'inverse, puis comme Montréalaise, on n'est pas toujours confronté à ça. Puis ça m'a rassurée face au type de Québec que moi, je souhaite construire comme libérale, et au fait que c'est tout à fait possible de le faire, que partout dans les régions du Québec, cette vision-là, elle est partagée, elle peut être partagée.
Merci beaucoup, Madonica Kadek. Merci beaucoup d'être venue nous parler de ce rapport. J'invite les gens à aller regarder ce rapport. J'invite les gens à s'intéresser à cette vision du nationalisme que vous mettez en avant. J'avais hâte d'entendre ça, parce qu'en ce moment, on en reçoit là du nationalisme, matin, midi, soir, de tous les côtés. Puis il est bien pour nous, citoyens, de savoir, mais finalement, sur quoi vous vous différenciez.
Mais voilà, c'est important de le définir, puis je mets le point là-dessus, c'est important de le définir, parce que la CAQ s'est approprié ce terme-là sans le définir. Nous, on le nomme dans le rapport, puis on se dit, non, c'est assez, donc il est temps donc, de déconstruire certains mythes sur ce que ça signifie, puis valider qu'on peut tout à fait défendre les intérêts de tous les Québécois, et mettre de l'avant donc, ces intérêts-là.
Merci beaucoup. Je te souhaite bonne continuation. Je sais qu'on va se reparler bientôt. Le rapport est sorti. Maintenant, il faut qu'il soit, que tout le monde s'en approprie et puis fasse ce qu'il veut, réfléchisse là-dessus. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Cyril.
Mon nom est Cyril Ikoala.